écoutez RFI, il est 20h ici à Paris, 19h en temps universel.
Mathilde Cariou.
Des bombardements, des raids, des tirs dans le nord de Gaza. L'enclave n'en finit plus de subir les attaques israéliennes. Au moins 120 personnes sont mortes en l'espace de 48 heures. Un candidat pro-européen à la présidentielle polonaise, le maire de Varsovie, remporte la primaire de la coalition civique. En France, c'est un symbole de la résistance qui rentre au Panthéon. L'historien Marc Bloch rejoint le temple de la mémoire. Et puis des milliers de personnes se mobilisent contre les violences faites aux femmes en France et en Italie. 120 morts en l'espace de 48 heures. C'est le dernier bilan des attaques israéliennes dans la bande de Gaza. La défense civile indique que c'est dans le nord que se concentrent actuellement les bombardements. Et le nombre de victimes continue d'augmenter inexorablement. On fait le point avec Oriane Verdier.
Un hôpital aurait notamment été touché dans le nord de l'enclave, blessant du personnel médical et des équipements ce samedi. Parmi les morts figurent 7 membres d'une même famille dont la maison a été touchée pendant la nuit dans la ville de Gaza, ont rapporté des sources médicales à l'agence France Presse. D'autres personnes ont été tuées dans le centre et le sud de l'enclave. Des témoins sur place décrivent une augmentation des bombardements dans le centre de Gaza, en effet, particulièrement sur le camp de réfugiés de Nusayrat, où une mosquée aurait été touchée. Le Hamas a averti hier que les hôpitaux toujours en état de fonctionner seraient contraints de cesser leur activité faute d'essence pour alimenter les groupes électrogènes qui fournissent l'électricité. L'essence, comme l'aide humanitaire, n'entre qu'au compte-gouttes dans l'enclave coupée du monde par l'armée israélienne. Cet isolement rend également très compliqué l'évaluation concrète de la situation sur place pour les journalistes et observateurs internationaux. L'offensive israélienne a fait plus de 44 000 morts, en majorité des civils à Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de la Santé du Hamas. Mais certains experts estiment que le nombre de morts pourrait en réalité s'élever à plus de 100 000 personnes.
Des victimes palestiniennes auxquelles il faut désormais ajouter les morts au Liban, au moins 30 rien que cet après-midi, selon les ministères libanais de la Santé. L'armée israélienne tente d'encercler la ville de Qiam dans le sud-est du territoire. Et les frappes continuent du côté de Beyrouth, toujours sans préavis d'évacuation, indiquent les correspondants de l'Orient Le Jour. Enfin, le Hamas annonce la mort d'une otage retenue dans la bande de Gaza, tuée a priori dans une zone d'opération israélienne, toujours dans le nord du territoire. Il ne serait que plus que 97 prisonniers sur les 250 enlevés le soir du 7 octobre 2023. L'ambassadeur européen au Niger, rappelé pour consultation, le différend porte sur la manière dont est distribuée l'aide humanitaire après les inondations de l'automne. Les autorités de Niamey estiment qu'elles auraient dû être consultées avant que l'Union n'envoie 1,3 million d'euros aux associations, ce qui constitue, selon l'Union européenne, une entrave à son dispositif d'aide aux populations. Je rappelle que les relations sont particulièrement tendues, presque coupées même entre la France et le Niger depuis le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. En Pologne, le résultat des primaires du parti de Donald Tusk est enfin tombé. C'est le maire de Varsovie qui sera le candidat de la coalition civique aux élections présidentielles prévues au mois de mai prochain. Sa victoire pourrait permettre une certaine libéralisation de la société polonaise, voire le retour de l'état de droit. Explication avec Adrien Sarla.
Avec 74,2% des voix, le candidat de la coalition civique à l'élection présidentielle sera Rafał Trzaskowski.
Il est l'homme sur qui reposent tous les espoirs de changement. S'il parvient à se faire élire en mai prochain, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, pourrait bien libéraliser le visage de la Pologne. Réputé europhile et progressiste, le candidat élu espère prendre sa revanche sur sa défaite qui s'était jouée à un fil lors des présidentielles de 2020.
Je suis convaincu que nous ressortons tous renforcés de cette primaire. Elle me confère une forte légitimité, beaucoup d'énergie, de détermination et de courage pour battre le PiS.
Même si le chef de l'État n'a qu'un rôle limité en Pologne, l'élection de Trzaskowski mettrait fin au blocage d'Andrzej Duda, car pour l'instant, le président oppose son veto systématique aux réformes libérales du gouvernement Tusk. L'identité des autres candidats n'est pas encore connue, mais toutes les projections convergent déjà pour donner Trzaskowski vainqueur en mai prochain. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
En Inde, c'est une victoire écrasante pour le parti de Narendra Modi aux élections législatives du Maharashtra. C'est un état clé pour le Premier ministre puisque c'est là que se trouve la mégalopole de Bombay sur laquelle il peut désormais compter. Et ce n'était pas gagné au vu des scores du mois de juin où Narendra Modi n'avait été réélu que de justesse. Explication signée Combastin.
Narendra Modi, dont le BJP a obtenu une majorité relative en juin, est-il en perte de vitesse? C'est ce que l'opposition répète et le match qui s'est achevé dans le Maharashtra, état incontournable de 130 millions d'habitants, était donc guetté par tout le pays. Le résultat, c'est un tsunami en faveur du BJP qui vient faire taire ses doutes sur la popularité du Premier ministre. Sa coalition est en passe de remporter 208 des 288 sièges de l'Assemblée du Maharashtra. Le BJP a gagné avec l'appui de partis locaux, mais à lui seul, le parti nationaliste hindou est proche de la majorité absolue au Maharashtra. C'est donc une victoire nationale, d'autant plus retentissante qu'elle arrive après une autre victoire dans l'Haryana, où le BJP était donné perdant. L'opposition est désemparée face à cette défaite cuisante. Seule l'autre consolation, l'opposition garde le contrôle de l'état pauvre du Jharkhand à l'est du pays où se tenaient aussi des élections. Combastin, Chennai, RFI.
Vive la République et la libération de Strasbourg. Les mots du président français Emmanuel Macron aujourd'hui en Alsace, où il célébrait les 80 ans de la libération. Il a rendu hommage à tout le monde, des résistants, aux malgré nous, ces Alsaciens incorporés, alors à l'armée allemande. Il a également annoncé la prochaine panthéonisation, celle de l'historien Marc Bloch, enseignant à l'université de Strasbourg de 1919 à 1936, résistant, capturé, torturé, puis assassiné par les nazis le 16 juin 1944. Son portrait est signé Grégory Mott.
Audace des mots et des idées qui se doubla du courage physique.
Marc Bloch, le patriote qui avait déjà combattu pendant la Première Guerre mondiale, est accablé par la déroute de 1940. Il écrit un ouvrage de référence, L'étrange défaite, analyse à chaud de l'effondrement de l'armée française. Ce républicain juif refuse ensuite les lois antisémites de Vichy et en 1943, il entre dans la résistance à Lyon. Il a 53 ans. Laurent Douzou, professeur émérite à Sciences Po Lyon et spécialiste de la résistance.
Au début, il aide à rédiger des revues clandestines. Puis petit à petit, comme il devient un responsable important, il va coordonner l'action des résistants qui se trouvent placés sous ses ordres.
Le 8 mars 1944, il est arrêté et torturé, puis exécuté par les nazis le 16 juin. Pendant sa période de captivité, cet infatigable passeur de savoir donne des cours d'histoire aux autres prisonniers. La recherche historique en France doit beaucoup à ce spécialiste du Moyen-Âge.
Qui propose une toute nouvelle vision de l'histoire. On rompt avec l'histoire traditionnelle assise sur des dates, sur des chronologies très précises et on essaie en profondeur de comprendre la société qu'on étudie.
En combinant l'approche historique, économique et sociale.
L'actualité en France, c'est aussi ces manifestations dans tout le pays contre les violences sexistes et sexuelles. La CGT parle de 100 000 personnes à Paris, 80 000 à Marseille. Preuve, souligne le syndicat, que la société française prend conscience des réalités du patriarcat. Le phénomène ne s'arrête pas, bien sûr, aux frontières du pays. De l'autre côté des Alpes, en Italie, le même mot d'ordre a mobilisé 150 000 personnes. Écoutez le témoignage de Chloé, 30 ans. Elle estime que le gouvernement Meloni n'en fait pas du tout assez pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Là où on devrait agir, c'est sur la prévention, donc sur l'éducation à l'école, avoir des agents de police formés sur les violences faites aux femmes pour qu'elles puissent se tourner vers eux en se sentant en pleine confiance. On veut lutter contre un gouvernement qui coupe de plus en plus les fonds qui vont au centre anti-violence. Il y a une réelle discrimination. Récemment, le ministre de l'Éducation, dans un discours, a minimisé l'importance du patriarcat en disant qu'il avait été aboli grâce à une loi de 1975. Comme si une loi était suffisante pour abolir tout un système sur lequel se fonde la société. Et dans ce même discours, il a tenu à lier les féminicides et les violences faites aux femmes aux populations immigrées illégalement en Italie, alors que les violences sont perpétrées beaucoup plus par les Italiens que par les populations immigrées. Des affirmations qui malheureusement ont été soutenues par tous les membres du gouvernement, y compris par Giorgia Meloni, qui est la première chef de gouvernement italienne femme.
Des propos recueillis à Rome dans la manifestation au micro d'Anne Lenire. Vous écoutez RFI, il est 20h10 ici à Paris.